Phil PM. La voix est libre.
Guy et moi avons étudié au HEC des années 70, à la fin des années 70. On est tous les deux comptables agréés.
Avec M. Legault, parce que M. Legault aussi
exactement,
était au HEC.
Un autre ami. Je comprends très bien l'interrogation. Je pense que j'aimerais peut-être focaliser c'est sur la compétence de M. Leblanc.
Alors, Luc, au moins, M. Fitzgibbon s'est pas caché tout à l'heure en entrevue.
La meilleure défense qu'il pouvait présenter, c'est celle-là, parce qu'au fond, là, je suis ici pour vous dire que moi, ça m'apparaît parfaitement acceptable une nomination comme celle-là. Écoute, si on en vient au point en démocratie que le fait de connaître un ministre t'empêche d'aller servir la chose publique, bien là, tu vas te sauver de tous les ministres. Tu voudras plus jamais militer dans un parti. Or, dans le cas ici de Guy Leblanc, puis les gens utilisent le mot à tort et à travers de nomination partisane. C'est dur de faire des nominations partisanes quand t'es la CAQ. Il n'y a presque pas de base militante, il n'y a presque pas de membership. Alors, le gars en question, le monsieur Leblanc, il connaissait quelqu'un dans le monde des affaires qui s'appelait Pierre Fitzgibbon. Puis lui, il a décidé de s'engager en politique. Puis bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vu des grandes réalisations, mais c'est certainement quelqu'un qui fait belle figure, qui s'exprime bien, qui a de l'air solide dans ses dossiers et très calme.
Sauf que là, on sort de la connaissance de l'individu. C'est des amis personnels, là.
Oui, c'est correct.
Je comprends, mais je veux dire, il y a quand même une distinction. Puis je pense que M. Fitzgibbon a été, tout à l'heure en entrevue, en tout cas, à mon sens, à moi, a été d'une grande transparence.
Oui,
en disant, regardez, on est des amis.
Mais j'ai un gros plan pour Investissement Québec.
C'est ça.
On pourra en discuter un jour, toi et moi. Mais c'est ça, le plan du gouvernement, puis il est élu. Alors, il dit, moi, ça me prend quelqu'un qui fera pas obstacle. Ça va me prendre quelqu'un qui y croit, premièrement. Puis, deuxièmement, ça me prend quelqu'un qui a de l'expérience, qui est compétent, qui sait ce qu'il fait. On met pas ça en œuvre en criant lapin. Et je connais un gars, puis ce gars-là, ça donne que c'est un ami personnel, mais je sais qu'il est très, très performant.
Ouais.
Ça va me prendre quelqu'un de très, très performant, puis allons de l'avant. À un moment donné, c'est qu'on va trop loin avec ça, là. Je me souviens très bien, moi, quand j'étais avec mes histoires de vieux mononcle, je travaillais avec M. Mulroney à Ottawa. À un moment donné, la décision a été prise qu'on procédait à la privatisation d'Air Canada. Aujourd'hui, ça m'a l'air quasiment banal, là, mais ça ne l'était pas. C'était une compagnie qui perdait 700-800 millions par année et était propriété à part entière du gouvernement. Le gouvernement avait décidé de la privatiser. Alors, il avait changé tout le conseil d'Air Canada, puis les gens qu'il avait nommés là, c'était clair que c'était des fidèles, des vrais fidèles, des gens compétents, mais c'était clairement des gens fidèles. Et dans le cas du Parti conservateur, à cause de sa longue histoire, on pouvait dire que c'était aussi des gens qui étaient associés au parti.
Ouais.
Mais là, tu te fais mitrailler dans les journaux. Moi, je travaillais au cabinet du premier ministre, je faisais partisane, blablabla, le patronage, gnagnagna. Non, il y avait une raison extrêmement simple. C'est qu'à partir du moment où on déclenchait l'opération privatisation, on voulait pas se retrouver devant les tribunaux pendant 3-4 ans de temps parce que le conseil avait pas complètement accepté ou avait dit non à je ne sais pas trop quoi. Dit, regarde, on va avoir nos fidèles, là.
Ouais.
Les gens qu'on nomme là, on leur dit, là, vous allez siéger au conseil pour participer à l'œuvre de privatisation d'Air Canada. Et il s'adonne que ça a été une excellente décision.
Et pour un peu... quand le 1er octobre, la CAQ a été élue, portée au pouvoir, François Legault avait un sérieux problème, ses bras-là. Parce que, comme tu mentionnais tout à l'heure, ils ont pas de base, eux autres. Ils n'ont jamais exercé le pouvoir.
Ils n'ont pas de membership, vraiment.
Donc, ils devaient trouver, dans un tournement, 500 personnes déjà pour du staff politique, puis après ça, des nominations, etc., puis t'as pas de base en tant que tel.
Ouais.
Alors, c'est normal, quelque part, que tu te tournes vers des gens en qui t'as confiance pour exercer tes politiques, quelque part.
Ben oui, à chaque fois qu'on a vu la naissance d'un nouveau parti, Parti québécois né à la fin des années 60, bon, se présente à l'élection en 70, c'est sûr que le staff qu'il y avait autour d'eux, c'était des anciens libéraux ou des anciens unionistes. Qu'est-ce que tu veux?
Sauf que la CAQ, dans son passé, avec le shérif Éric Kerr, entre autres, ils n'ont pas arrêté de décrier et les nominations partisanes que faisait à l'époque Jean Charest. On en avait répertorié quelque chose comme 550 à l'époque.
Ouais.
Après ça, il y a eu Pauline Marois qui est arrivée. Mmh. Bon, le plus spectaculaire, c'était... c'était André Boisclair à New York. Puis après ça, le gouvernement de Philippe Couillard, ils n'ont pas arrêté pendant tout ce temps-là de décrier les nominations partisanes. Fait qu'à chaque fois par la suite que tu nommes quelqu'un que tu connais ou dont on sait que c'est tes amis, ben il faut que tu t'attendes à ce que l'élastique te revienne dans le visage quelque part. Là.
Ça, c'est la game politique. Ça, c'est le match. Mais moi, je parle de monsieur, madame, tout le monde, les électeurs, les contribuables québécois
ouais.
ne se sont pas fait flouer en apprenant aujourd'hui qu'un monsieur du nom de Guy Leblanc va voir son salaire majoré parce que sans ça, il n'était ouais. pas intéressé, puis qu'il va prendre les rênes d'Investissement Québec. Et on verra si François Legault et Pierre Fitzgibbon ont eu raison de donner cette nouvelle orientation à Investissement Québec. C'est leur programme, ils vont le mettre en application, et les gens n'ont pas à se demander s'ils ont été floués, parce que, moi, c'était une expression qui commençait à me tomber sur les nerfs, parce qu'on a mis en place les tinamis. Ils appelaient ouais. ça les tinamis. Mais écoute, Pierre Fitzgibbon, c'était un gars qui vient du monde des affaires. Les gens du monde des affaires ont tendance à se connaître, et non seulement ça, écoute, ils ont été à l'université ensemble, à l'École des hautes études commerciales. Je pense que ça me paraît un gars compétent, je ne le connais pas personnellement, mais de là à crier aux nominations partisanes, puis au patronage, puis tout ça, je trouve ça à la fois déplacé et franchement, c'est nuisible. Parce que laissons donc, pour ce type de projet, le gouvernement de faire ce qu'il a à faire. Puis engager un gars comme Guy Leblanc, je te le répète, là, je l'ai écouté l'entrevue avec M. Fitzgibbon, il était très solide avec toi, il était très solide, très calme.
Ouais.
Il avait pas l'air d'un gars, « Ah, vous allez voir qui est bon! » Non, regarde, on l'a choisi, je le connais, c'est un ami.
Mais c'est même eux autres qui l'ont, M. Fitzgibbon l'a dit, c'est même eux autres qui l'ont suggéré aux chasseurs de tête qu'ils avaient embauché. Là, pour,
oui.
C'est eux autres qui ont dit, « Regardez, voici les noms qu'on veut analyser, puis amener les vôtres, puis on verra après. »
C'est ça. Alors moi, je trouve que c'est comme ça qu'on gouverne, puis que il faut arrêter de chercher des bébites partout. Ouais. Puis je vois ni corruption, ni patronage, ni favoritisme. Je vois quelqu'un qui a été choisi pour une job difficile, qui doit être entre les mains de quelqu'un d'ultra compétent. Puis quelqu'un d'ultra compétent, ça coûte de l'argent. Puis c'est ce gars-là. Puis on va le laisser faire ça.
Ils seront jugés au résultat.
Monsieur Legault a eu raison de tenir les propos qu'il a tenus. C'est petit, le monde des affaires. Là. Si t'es un homme d'affaires ou une femme d'affaires à Montréal, tu vas connaître les autres hommes d'affaires puis les autres femmes d'affaires. Puis il y a des chances que tu sois ami puis que tu fréquentes le même club de golf, puis ainsi de suite. C'est la vie, ça. C'est la vie. Et voilà.
On va aller à la pause, mon cher Luc, puis tout de suite après, on va parler de recours collectif.
Oui, monsieur.
100 millions! Recours collectif, qui est une demande d'autorisation de recours collectif qui pourrait atteindre 100 millions pour les gens qui se sentent lésés d'avoir perdu le signal de TVA Sport pendant quelque chose comme 47 heures. On fait une pause pour revenir avec ce sujet dans un instant.
Drainville PM. La voix est libre.
Mais nous, on réclame 250 $ par membre. Il y aurait, selon les informations préliminaires, autour de 400 000 abonnés de Bell qui ont été privés du service.
Ouais.
Donc, on parle de 100 millions dans ce contexte-là.
Alors ça, c'est l'avocat Jean-Philippe Caron, je pense, son nom, à qui on a parlé tout à l'heure, qui nous expliquait un peu
spécialiste des recours collectifs.
Exactement. Puis là, c'est un recours collectif qui a été déposé ce matin pour dédommager les gens qui se sentent lésés d'avoir perdu le signal de TVA Sport dans le conflit entre Québécois et Bell, là, pendant quelque chose comme un petit peu moins de 48 heures.
Mais quand tu connais le business des recours collectifs, là, tu comprends vite ce qui est en train de se passer. Un cas à peu près valable, moins. Là, il y a un cabinet d'avocats qui saute là-dessus. Il n'est pas payé par personne. Il faut qu'il trouve simplement une personne qui va parler au nom de toutes les autres.
Exact.
Une personne qui dit avoir été victime ou d'avoir été privé de quelque chose. Et là, ils s'en vont de l'avant, puis ils déposent ça. Puis ils demandent 250 $ par personne. C'est cher un peu, là. Je veux dire, c'est cher un peu.
Ben, mais toujours un petit peu plus que passé.
Mais
là.
Si, tu sais, si on veut prendre ça par l'absurde, tu comprends? Il aurait dû retirer le signal pendant 7-8 jours. Le monde aurait pu se payer des vacances grâce au recours collectif.
Surtout les avocats.
Mais tu sais, la réflexion que ça m'amène, c'est la chose suivante. C'est que Pierre-Carl Péladeau, sa stratégie qui a commencé à se dérouler devant nos yeux il y a à peu près 6 semaines, un site web, des pubs, des déclarations, 2 ou 3, je pense, discours majeurs à Montréal, à Ottawa, tout ça. Et là, à mesure qu'il avançait, il plaçait ses pions. Donc, il est parti du point zéro. Personne n'avait jamais entendu parler d'un conflit de ce type-là.
Mm.
Mais en fait, je dirais que la majorité de nos auditeurs ne connaissent pas cette business-là. C'est un peu particulier.
Ouais.
Les gens reçoivent leur facture de câble et ne réalisent pas qu'ils sont en train de payer 5 $ à RDS puis 3 $ à un autre, puis ainsi de suite. Il a réussi à prendre ça au point zéro, puis à en faire des premières pages de journaux, puis à en faire une espèce de situation de crise. Puis si tu veux mon avis, Je pense pas que chez Québécois, où j'ai été un haut dirigeant pendant longtemps, c'est pas qu'il y a grand monde qui perd le sommeil à propos d'un recours collectif. Ouais. Là, je pense pas que
mais là, de toute façon, on disait c'est 250 $ par personne, 400 000 clients. Mettons qu'ils s'entendent à l'amiable à l'extérieur.
À 50$.
À 50$ ou à 40. J'ai calculé pour 40, là. Mais
divise par 5, c'est 20 millions. Puis le bureau d'avocat va chercher un honoraire à peu près 25%.
Voilà, exactement.
Alors, moi, dis, il n'y a pas, c'est pas trop mal.
C'est lui qui fait de l'argent dans un recours.
5%, 4 millions, écoute, si ça va bien, ou alors que ça arrive très souvent dans les recours collectifs, parce que c'est une procédure qui s'avère extrêmement longue devant le tribunal, que les deux parties sont encouragées par le juge à régler, et puis que ça se règle avant le procès, ou même ils vont interrompre le procès au début, puis ils vont régler. Puis là, les grands gagnants de l'affaire sont qui? Les avocats qui ont utilisé les recours collectifs. Quand le législateur a adopté cette loi-là, je me rappelle, c'était un ministre du gouvernement de l'évêque qui s'appelait Pierre Marois qui avait piloté ce projet de loi-là. Ça venait des États-Unis, puis il y avait quelques lieux en Europe à l'époque qui l'avaient aussi. Puis l'idée, c'était, vous, là, qui êtes victime là, d'une privation de quelque chose, on vous a trop chargé pour votre carte de crédit parce qu'on avait omis de vous dire qu'il y avait un pourcentage X qui s'appliquait, peu importe. Le petit, là, il était soudainement représenté. C'était vu comme une œuvre sociale. Or, c'est devenu une des plus grosses business. Les recours collectifs, les avocats. Je connais des bureaux d'avocats qui vont créer une espèce de structure de financement, vont chercher des investisseurs parce qu'ils ont besoin quand même d'un fonds de roulement pour continuer à travailler puis aller plaider leur affaire.
Puis oui, là, parce que tant que c'est pas réglé, tu touches pas une scène.
Alors, tu laisses aller 50% de tes honoraires. Disons, on va reprendre l'exemple, 20 millions, 25%, ça fait 25 millions.
De combien, tu dis? De 100 millions, ça ferait 25 millions.
Oui, 25 millions. Puis après ça, si on veut réduire ça de 25%, on tombe à quoi? Il va rester 17-18 millions dans ce coin-là. Ouais. Bon. Alors, le 17-18 millions, ben là, tu
cherches le quart à peu près.
Tu as des investisseurs avec toi, fait que tu prends le quart de ça, puis tu leur en donnes le pourcentage correspondant à leur participation au financement. Ouais. C'est tout.
Mais est-ce que Pierre-Carl Péladeau est allé, tu le connais, toi, tu as travaillé pour lui, tu connais très bien, etc. Est-ce qu'il avait tout évalué les implications que ça avait de débrancher Bell de son signal, à ton avis?
Certainement.
Ouais.
Je connais.
Parce qu'on sait qu'il.
Je connais la façon.
Il peut être impulsif, M. Péladeau.
Ouais, mais peut-être que l'impulsivité est venue, puis qu'à un moment donné, les professionnels se sont mis au travail, puis ils ont dit regarde, voici comment on va procéder, puis ainsi de suite. Je suis convaincu qu'ils ont vu essentiellement tous les tenants et aboutissants de ce qu'il y aurait devant eux. Mais vu que TVA Sport, depuis sa création, a perdu autour de 150 millions, ils ne peuvent plus continuer, puis ils ont le contrat de la LNH sur le dos. Puis s'ils ne sont pas capables d'augmenter leurs revenus puis qu'ils continuent d'accumuler des déficits semblables, ce n'est pas acceptable pour les actionnaires. Mm. C'est carrément de la mauvaise gestion. Alors, il y a deux choix. Ou bien j'augmente mes revenus, puis Bell va plier à mes demandes parce que le CRTC va y imposer, ou alors je m'attelle dans la porte. Ouais. Si je m'attelle dans la porte, le CRTC devra se justifier. Puis comme par hasard, ça marche comme la politique de l'heure qu'on vit au Québec. À l'heure actuelle, l'idée, c'est d'allumer toutes sortes de petits incendies où on pourra dire, hey, c'est le CRTC, une organisation fédérale qui nous a privés de la seule concurrence à RDS. Bon, tu vois, puis même aujourd'hui, M. Péladeau s'est permis d'envoyer un tweet dans lequel il fait justement ce que M. Legault va laisser le CRTC décider pour le Québec du futur. Bon, alors, ça fait toute partie d'une game bien organisée, bien ficelée. Et moi, je te jure que j'ai pas eu de contact avec eux, mais au CRTC, à l'heure actuelle, alors qu'ils sont en train de réfléchir à quelle décision ils vont rendre suite à l'audience d'hier, ils doivent être bien mal pris. Ils peuvent adopter une position purement légaliste, puis dire « je te suspends, je te punis, je te fais ci, je te fais ça », et ben Québécois va se virer de bord, va te tirer à la plug, fini. Il n'y a plus de TVA Sport. Et là, le CRTC va être obligé de vivre avec l'odieux de, je sais pas, j'ai pas vu de chiffres, mais au moins une centaine d'emplois. Puis certainement aussi un accès. Il y a plus de sport depuis qu'on n'a plus un monopole.
Ouais. Mais ils sont confrontés, CRTC, aussi à une nouvelle réalité technique, technologique. Je veux dire,
c'est que
tu n'as plus besoin d'avoir
les règlements qui sont en place sont pour réglementer une situation qui a tellement changé que ça n'a plus rien à voir.
Ouais, c'est ça.
Et c'est en bonne partie l'argument de M. Péladeau, puis il a raison. Il a complètement raison. Ils ont été mis en place là, avant que Netflix, tout TV, puis le club illico arrive et tout leur
semblant. Apple TV ou des trucs du genre, tu peux aller te chercher. Tu peux t'abonner à NFL Network, la Ligue nationale, etc. Aller chercher les matchs que tu veux, aller chercher à la pièce.
J'ai vu hier, de mes yeux vus, Louis, Moi, j'ai un Apple TV, alors je joue safe, là. Ouais. Mais il y a quelqu'un chez qui je suis allé qui a un bidule, je ne me rappelle même pas du nom, c'est pas légal, paraît-il. Branche le câble là-dedans, branche ça dans la télévision, écoute, il y a toutes les stations de la Terre. Ça n'a pas de bon sens, je le voyais. Ça en allait Russie. Vrr, toutes les stations qui existent en Russie. Tout. Comprends-tu? Un CRTC réglemente quoi exactement? Puis la redevance à un, puis le Fonds des médias du Canada, puis tout ça. Tout ce système-là est maintenant en lambeaux. Mm. C'est un peu comme ce qui est arrivé au taxi. Écoute, ça marche plus ton modèle. Alors le CRTC applique un modèle qui franchement n'existe plus. C'est comme un modèle virtuel. C'est plus ça la réalité du marché. Mm. Alors, M. Pelladeau a décidé de donner un grand coup. Ben, je me sors de mes pertes. Ou bien j'abandonne la game. Puis si je l'abandonne, je vais dire au CRTC, puis à Bell, c'est vous autres, mes patins, qui avez fait en sorte qu'on a privé maintenant les consommateurs d'une alternative dans le domaine sportif au Québec.
Ouais. Alors, si tu t'avais à parier, là, ça va se terminer comment, ce conflit-là, à ton avis?
En coulisses,
parce qu'il y a eu des menaces, là. M. Pelladeau fait des menaces directes hier, là. Il dit, moi, ça fait pas votre affaire, moi,
aussi.
Moi, l'arrêter,
Ian Scott, le président du CRTC, a dit, moi, j'ai les moyens de t'enlever ta licence, hein. Alors, ils
sont
tous les deux
là. Il a dit, ben, faites-les, moi, le fermer.
J'ai pas de contact avec eux parce que, tu sais, on m'a éliminé de la famille à un moment donné, mais c'est des affaires qui arrivent dans la vie. Mais je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir beaucoup de tordage de bras en coulisses pour essayer de trouver une solution négociée. Le CRTC doit se pencher sur Bell puis dit, écoutez, là, faites un pas, là, parce que c'est une situation impossible. Ouais. Le CRTC peut quand même pas dire, ma réglementation ne correspond plus à la réalité, donc j'en invente une nouvelle. Non, ça revient au législateur. Alors, le CRTC, il est pris dans le milieu de ça. On me demande d'arbitrer quelque chose qui repose plus sur les faits objectifs habituels. Puis je peux pas rien faire. Si le législateur la change pas, ma loi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, comment ils vont réussir à sortir de ça? Ça va être assez difficile. S'ils choisissent l'approche légaliste, dire « t'as une punition parce que t'as pas respecté le règlement XYZ, je t'enlève des ondes 3 mois de temps », je pense qu'on va dire bye-bye à TVA Sport.
Luc Lavoie, merci.
Bon week-end.
À demain.
Salut. On se voit demain, oui, bien sûr. Salut.
Salut.